Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauché.
19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la directrice adjointe de la rédaction de L'Express. Bonsoir, Andre Zancher.
Bonsoir.
Avec le journaliste Jean-Louis Bourgat. Bonsoir, Jean-Louis.
Bonsoir.
Avec l'ancien directeur de Système U, qui publie d'ailleurs Du panier à l'assiette avec Perico Légas. Bonsoir, Serge Papin.
Bonsoir.
Et le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir, Yves Tréhard.
Bonsoir, Marco. Bonsoir à tous.
Décidément, c'est compliqué pour le PSG. Déjà visé par les Football Leaks sur son financement, le club de la capitale doit maintenant affronter de nouvelles révélations de Mediapart cette fois. Ses recruteurs ont fiché ethniquement les jeunes joueurs repérés par Paris, français, maghrébins, antillais, africains. Un fichage qui avait déjà fait débat au sein du même club. Une enquête interne a été ouverte. En France, de tels fichiers, vous le savez, sont interdits. Ça vous choque ou c'est la dure réalité? D'abord, sur les réseaux sociaux. Bonsoir Benoît Galeret.
Bonsoir, les fans défendent leur club évidemment. Pourtant le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, remarque que le PSG confirme la révélation mais parle de faute individuelle. Notre enquête prouve pourtant que la réalité est plus complexe que cela, dit-il aux grandes dames de la direction. Mais et les autres grands clubs européens, ils font comment? Vous voulez réserver vos leçons de morale au PSG, ça gaze belle. Et puis dans les rédactions de journaux, il y a peut-être autant de mixiqués que dans les équipes du PSG, ajoute Anis. Moi perso, je m'en tape tant que ce sont de bons joueurs, balaye Pierre. Et il y a Romain aussi qui dit: est-ce que vous croyez foncièrement que le PSG est un club raciste? Est-ce que vous connaissez son histoire, son engagement citoyen? C'est vraiment lamentable de dénoncer cela, dit-il. Mais Teddy leur répond qu'ils n'ont rien compris. Le fichage éthique est interdit par la loi, rappelle-t-il. Oh, ça serait en gros une discrimination mise en place par un ancien du club qui est aujourd'hui à Rennes. Et allez donc, minimise François. Pierre Ménès parle même d'acharnement grotesque, puisque, dit-il, les derniers fruits de la formation parisienne sont Kimpembe, Dagba, Nsoki, Diaby, Wea. Charlie lui explique alors qu'on parle encore une fois de faute judiciaire et que, avec des témoignages et des preuves, on peut pas simplement répondre n'importe quoi. Le PSG forme des noirs très forts.
Avec nous, dans ce premier débat, Nicolas Georgereau, spécialiste du sujet ici RTL. Rebonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Enfin, spécialiste du PSG, pas du fichage ethnique. Hein. Est-ce que vous êtes choqué, Jean-Louis Burga, par ce fichage ethnique?
Non, je suis pas. Enfin, je suis choqué de le fichage, oui, le fichage, ça doit pas exister, effectivement. Le fichage ethnique, en plus, c'est interdit. Mais est-ce que vous croyez qu'un dirigeant de club de foot, il va pas regarder s'il engage pour sa défense un grand Ivoirien plutôt qu'un petit Italien qui se faufile partout? Non, c'est le foot, ça fonctionne en fonction du physique et du mental des joueurs. Un Sud-Américain, il joue pas comme un Bosniaque.
Donc, grosso modo, il faut les recruter en fonction de leur ethnie, mais il faut pas l'écrire, quoi.
Oui, on peut le dire comme ça, mais...
Vous confirmez, Nicolas, la réalité du foot, c'est celle-là.
Le point central, en fait, surtout pourquoi ça a été mis en place, c'est simplement que dans ces équipes de jeunes au centre de formation, il y avait la volonté d'avoir une vraie mixité. Il faut préciser que la cellule de recrutement devait travailler hors de la région francilienne. Très clairement, en fait, qu'est-ce qu'elle montre, cette enquête? C'est qu'il y avait trop de jeunes d'origine africaine, antillaise ou maghrébine dans les équipes de jeunes et qu'il fallait donc, en dehors de la région en Île-de-France, aller chercher des blancs. Alors, il y a cette appellation française qui est complètement abjecte, en fait, et qui est hors de propos par rapport à la situation. Mais en fait, c'est ça, c'est d'avoir cette mixité au-delà des qualités footballistiques dans les groupes.
Oui, il y a. Je crois que l'excès de morale, si vous voulez, nous empêche de regarder un petit peu en face.
Pour l'instant, personne n'a mis de morale dans l'histoire. On va voir avec Serge.
Dans la polémique dans laquelle M. Arfi de Mediapart veut nous engager, comme souvent. parce que j'avais débattu avec lui sur les quotas, notamment pour l'équipe de France, parce que là, il s'agissait de savoir si on avait des quotas de blancs, de noirs, tout ça. Bon, là, c'est des équipes de jeunes, c'est un peu différent. Ce qu'il faut savoir, et j'ai discuté avec beaucoup de présidents de clubs là-dessus, notamment des grands présidents, des présidents de grands clubs, Paris, Marseille, je parle au niveau des pros. Mmh. Croyez pas que les équipes, elles sont faites comme ça au hasard. Évidemment, on prend les meilleurs, mais on prend et on sélectionne et on met sur le terrain en fonction aussi du public qu'on a. Si
c'est
à
vrai,
Marseille...
Ça, Nicolas, ça
si à Marseille,
dans une équipe, dans une équipe du Paris Saint-Germain, on va au-delà de ça parce qu'on cherche surtout des têtes d'affiche et qu'il faut aussi des stars qui vendent à l'international.
Je vous le dis, moi, à Marseille, par exemple, si vous avez un Grec qui est pas flamboyant, qui s'appelle Mitroglou, s'il est là, c'est parce qu'il y a un public d'origine grecque important à Marseille. Si vous n'avez pas,
il y a eu longtemps
avant un Comoréen. Mmh. Et pourquoi il était là? Parce que vous avez un public Comoréen important.
Il ne sera jamais président du PSG. Il ne sera jamais président d'un club de foot. Parce qu'il nous ferait une ratatouille.
En tout cas, à l'instant, la ministre Marina Sinéanu est consternée. Elle demande à la Fédération française de foot et à la Ligue de foot de se saisir du dossier. Vous êtes heureuse là, que la ministre.
Mais moi je vais vous surprendre, c'est pas pour les mêmes, ou peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que pour moi c'est la preuve qu'on est en train de devenir fou avec ces histoires de couleurs, dans le sens où les gens réagissent sur le point de vue moral en disant, comme il y a fichage, ça rappelle les heures les plus sombres, en gros. Hein, il faut toujours être vigilant là-dessus.
C'est toujours faux d'ailleurs.
Voilà. Mais je pense que pour le coup, ce que révèle cette affaire, c'est moins le retour des horreurs passées que le basculement culturel qu'on est en train de vivre nous. C'est-à-dire le modèle français au départ, c'est les particularités religieuses ou ethniques, même la couleur de peau passe derrière l'appartenance à une citoyenneté commune. C'est-à-dire on est français avant tout. On est français footballeur avant tout. Et on est en train de basculer vers un modèle plus anglo-saxon où ces particularismes-là sont plus importants. Et donc, lui, il est noir. D'ailleurs, il m'était antillais alors qu'il était ivoirien. Donc, c'est vraiment la couleur de peau, voilà, etc. Moi, j'engage... Il y a un très bon essai qui a été paru, que Tania de Montaigne a fait paraître, ça s'appelle L'assignation. Le sous-titre, c'est « Les Noirs n'existent pas ». C'est vrai. En France, les Noirs n'existent pas. Normalement, on est Français et après Noirs. Et je finis là-dessus, Marco. Le truc le plus horrible dans ce fichage, c'est qu'il n'y avait pas écrit blanc, il y avait écrit français.
Français, ouais, c'est ça.
Comme si français, les blancs étaient français et les autres n'étaient pas les français.
Le mec qui a fait le fichage, il a
un peu c'est que ces technicisations qui a, d'ailleurs, que parfois on n'a pas du tout besoin de créer, et je vous rappelle l'équipe de France de 2010 quand même, où il y avait des clans qui étaient des clans ethniques, eh bien, cette dimension-là a disparu avec l'équipe de France de 2010.
Je voulais juste dire une chose. Chaque fois qu'un journaliste a pris la présidence d'un club de foot, c'était une catastrophe.
Ouais. Alors écoutez,
Philippe, vous parlez de Michel Denisot, de Charles Bietri, c'est ce que je connais en tout cas.
Le fichage, on peut que déplorer ça, bien sûr. En revanche, est-ce qu'il peut pas y avoir une forme de fierté dans les clubs français à la diversité? Parce que moi qui suis footballeur et qui suis des clubs de foot plus modestes que le Paris Saint-Germain, par exemple, je suis le FC Gobelin. Il y a de la diversité.
Paris 13e.
Il y a de l'intégration. Et moi, j'adorerais même que le PSG, un jour, puisse dire combien il y a de Vendéens, combien il y a d'Alsaciens, combien il y a de Bretons, parce que ça serait intéressant aussi.
Dans ce débat-là, on ne peut pas taxer le Paris Saint-Germain d'un quelconque racisme. Quand vous regardez tout ce que fait la fondation du Paris Saint-Germain avec les actions, etc., et sur la citoyenneté...
Le foot est représentant d'une France qui est variée, mais qui est, en tous les cas, avec la Coupe du Monde,
en harmonie. Mais ce n'est pas de la discrimination positive, plutôt. C'est parce que c'est de la discrimination positive. Il est noir, en langage, parce qu'on en a besoin. On a plus besoin d'un noir que d'un blanc, peut-être. C'est pas du racisme, c'est à l'envers, non?
Non, c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire
Mais c'est là, en l'occurrence, c'est peut-être dans l'autre sens. C'est de la discrimination positive, ce fichage.
Non, encore une fois, parce que c'est simplement une façon d'équilibrer, parce
que la mixité.
Il y a encore trop de, selon eux, cette cellule de recrutement qui était alors en place, trop de jeunes d'origine africaine, pour prendre juste cet exemple-là, présents en Ile-de-France. Donc il fallait équilibrer.
C'était pas de la discrimination positive.
Mais si, en faveur des blancs.
Oui, en faveur des blancs.
Exactement. Ça s'appelle de la discrimination positive.
Et ce que voudrait Serge, plus voilà une sorte de fichage régional en fait.
Mais il pourrait y avoir. On pourrait se dire au fond, est-ce que les grands clubs, évidemment comme le Paris Saint-Germain, et surtout chez les jeunes, combien est-ce qu'ils accueillent aussi de gens des provinces? Parce qu'il y aurait aussi
une fierté
pour les provinces ces cas-là.
Faisons quelque chose de positif de ça. Transformons-le.
Il y a un exemple qui est fabuleux. C'est au Pays Basque espagnol. Vous avez une équipe où les joueurs qui jouaient, maintenant c'est moins vrai, ils devaient être basques. Vous avez la même chose. Moi, je vous rappelle quand même les années 50, parce que je m'intéresse au foot depuis que je suis tout minot. Je suis né juste après les années 50.
Quand vous preniez
l'équipe de Lens, de Lille, je suis désolé, quasiment tous les noms se terminaient en qui. C'était des enfants de mineurs.
Vous me parlez d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.
Vous aviez ce public-là.
Comme vous l'avez précisé, c'était
dans les années 50. Allez, on change de sujet dans un instant. Privé d'alloc à cause de leurs enfants. On continue, on en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Faugiel.
Et ce soir avec Jean-Louis Burga, Anne-Rose Enchère, Serge Papin et Yves Tréhard, les parents visés lorsque les enfants sont trop perturbateurs. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, n'est pas contre la suspension du versement des prestations sociales quand les élèves sèchent trop les cours ou se comportent mal en classe. Il l'a redit ce matin. La loi Ciotti de 2010 qui permettait cela avait été abrogée par la gauche en 2013. La semaine dernière sur RTL, Christophe Castaner était plus prudent. Il s'interrogeait sur une double peine pour les plus fragiles. Cette suspension, bonne ou mauvaise idée sur les réseaux sociaux, Benoît?
C'est ça, il y a deux écoles, ceux qui parlent de harcèlement des plus fragiles et ceux comme l'IFAN qui y voient enfin une vraie politique pour l'enseignement, responsabiliser les parents dans l'éducation de leurs enfants. Il n'est que temps. Arrêtez de sortir des évidences sans les appliquer, soupire Jérôme. Nous en parlons depuis 20 ans et on nous traite de fachos. Bernard espère que cette fois, le ministre aura le courage que personne n'a encore eu, supprimer ses aides aux familles de jeunes délinquants et de racailles. L'effet serait significatif, assure-t-il. Mais Violette, il voit une surenchère droitière totalement contre-productive. Le sujet est en effet bien trop compliqué pour le résumer à une simple sanction, confirme Pep. Manu préférerait qu'on cherche à comprendre, Salvatore aussi. Pense qu'il faudrait plutôt aider, accompagner, remotiver, apporter des solutions, au lieu de tout pomper aux plus vulnérables. François Jarreau rappelle d'ailleurs sur Café Pédagogique que la mesure de suppression des allocs, soutenue avec obstination par les Républicains depuis des années, n'a pourtant fait, dit-il, ses preuves ni en France où elle a été appliquée sous Sarkozy, ni en Angleterre où elle existe depuis des années et va même jusqu'à la prison pour les parents. C'est ce que Xavier Ponce appelle le populisme éducatif, une mesure soutenue par l'opinion, mais à efficacité nulle.
Serge Papin, supprimer les allocs
ça peut pas être
aux parents, aux parents, des enfants perturbateurs.
Ça peut pas être une mesure qui soit prise pour tout le monde. Je pense qu'il faut regarder les choses au cas par cas. Moi qui connais un peu les familles monoparentales, des femmes, des jeunes femmes souvent, qui sont seules à éduquer leurs enfants avec des horaires pas toujours adaptés. Comment on fait si je pense qu'il alors oui, on peut comprendre comme ça qu'il y ait des espèces de menaces parce qu'il y a des incivilités parce que quand on parle de turbulence, ça va jusqu'où? C'est pas pareil de démonter des lampadaires ou d'être turbulent. Qu'est-ce que ça veut dire être turbulent? En tous les cas, je pense qu'il faut plutôt avoir une sanction positive. On peut pas. Une sanction positive, c'est en regardant au cas par cas et d'aider. Parce qu'on a quand même des familles qui sont décomposées, où bah voilà, c'est plus le couple, la famille idéale.
Oui, Serge,
oui, mais on est dans une société qui est fragmentée et on peut pas tout de
je
suite
suis d'accord boum, avec vous, mais
dire on va pénaliser.
La présentation,
ça va être pire encore.
La présentation qui est faite de cette disposition qui avait été d'ailleurs expérimenté au niveau des Alpes-Maritimes à l'époque, parce que c'était une expérimentation.
Dans les Alpes-Maritimes, sauf erreur de ma part, ils en avaient enlevé à aucune famille finalement.
Oui, mais parce que justement, allocations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'interprétation est mauvaise. On dit, mais il n'y en a pas eu de retrait. Mais non, mais parce que la chose se fait de
c'était
façon graduelle.
Vous voulez dire.
De façon graduelle. C'est-à-dire que vous avez 3 ou 4 avertissements qui correspondent à des alertes vis-à-vis des familles et qui incitent les familles, justement, à remettre dans le droit chemin leurs enfants ou à les surveiller de plus près.
Voilà. Vous entendez ce que je dis, quand c'est possible, mais si ça ne l'est pas, c'est la sanction finale.
L'exemple en question de... J'ai plus les chiffres en tête, j'avais travaillé sur le sujet, je peux vous dire que ça marchait, ça avait marché cette expérience, et qu'elle a été supprimée uniquement pour des raisons idéologiques et encore de politiquement correctes par la gauche à l'époque. Et l'idée de Éric Ciotti, si elle est appliquée intelligemment, peut être une idée tout à fait intéressante pour remettre des enfants, parce que c'est quand même les enfants, le but du jeu, c'est de les remettre dans le droit chemin. Et ça avait une efficacité avérée.
Oui, mais Yves, pourquoi on ne peut pas parler d'accompagnement plutôt que tout de suite de sanctions?
Mais il ne s'agit pas de sanctions. Vous allez voir la famille.
Retirer des allocations, ça pas des sanctions.
Vous allez voir la famille, vous savez comment ça s'était passé? J'ai fait un reportage dessus. Vous avez un inspecteur qui vient, qui va voir la dame ou le couple, qui lui dit voilà, et il s'explique. Premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, et ce n'est qu'au bout du bout qu'on retire les... Simplement, entre-temps, le gamin, il est retourné à l'école.
Moi, puisque vous citez un exemple professionnel, moi, j'ai fait aussi un documentaire, j'ai assisté à des séquences les parents sont reçus par les professeurs et on voit beaucoup de parents qui sont complètement, qui sont pas de mauvaise volonté, qui ont envie de sanctionner éventuellement, mais qui sont désemparés face à les situations. Donc, je me voyais pas derrière le bureau en train de dire à ces parents qu'en plus j'allais leur supprimer une partie de leur pauvre revenu. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire.
Oui, alors je ne sais pas si la suppression des allocations familiales est une bonne solution, même graduée, parce que c'est vrai que leur systématisme peut poser problème. Néanmoins, je pense que ça pose la question fondamentale du rapport des parents à l'école, de leur responsabilité dans l'éducation, bien sûr, de leurs enfants, mais aussi dans ce qu'ils doivent transmettre du rapport aux professeurs, aux directeurs. Et je vais vous dire, on est vraiment arrivé là dans un vrai cas problématique. On y a consacré, nous, la couverture la semaine dernière. Quand les parents, oui, de l'Express, quand les parents d'élèves abusent. Et l'enquête de notre journaliste était absolument édifiante. Dans ce fameux lycée de Créteil où une professeure a été menacée avec une arme factice, il s'est quand même trouvé une association de parents pour dire que tout ça, c'était parce qu'il manquait de cadre dans cette classe. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la faute de la prof. Le rapport des parents vis-à-vis de l'école, et ça, c'est en fait, quel que soit le milieu d'origine, il se trouve que dans les quartiers difficiles, ça prend des développements parfois violents. Donc, bien sûr, qu'on est plus préoccupé, mais elle raconte une jeune professeure d'allemand qui dit avoir assisté médusée à un conseil de classe où les parents d'élèves annonçaient qu'il y aurait un boycott de leurs enfants et des enfants à la rentrée prochaine parce qu'on avait osé séparer des élèves trop bavards entre eux. Comment voulez-vous?
Ça, c'est sûr.
Non, mais
comment il y a un comportement des parents qui est quand même pas normal.
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Simplement,
responsabiliser les parents dans l'attitude de leurs enfants à l'école.
Il faut essayer tout doucement de comprendre qu'on est...
Pas toujours d'être.
Attendez, je dirais presque dans une autre civilisation au moment de ces cours avec ces gosses qui arrivent d'une famille compliquée, etc., etc. Donc, même... Quand les parents racontaient comment ce gosse avait braqué un pistolet sur le truc. Mais ça a été une grande période, c'est triste à dire, mais de rire dans la classe. Ça n'a pas été... On n'a pas dit « je vais la tuer ». Personne ne pensait à ça. Mais c'est une autre...
Non, mais je pense que Anne met le point sur quelque chose qui est quand même très important et qui n'existait pas par le passé. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont dépassés très souvent par leurs enfants, par l'indiscipline de leurs enfants. Et quand je dis indiscipline, c'est un petit mot. Et qui ne sont pas du tout impliqués dans la vie de l'établissement et surtout pas impliqués dans la scolarité de leur enfant.
Sauf quand ils viennent,
Allez, on laisse à Serge Papin le mot de la fin sur le sujet.
Oui, parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'il y a aujourd'hui des jeunes femmes qui sont seules avec des ados. Et que c'est pas simple, et c'est plus les parents là, qui sont concernés.
Mais
oui, bah écoutez, c'est pas facile quand on a un ado de 15 ou 16 ans et que on est seul à s'en occuper. Et je pense que ces femmes-là ont aussi besoin qu'on les aide plus qu'on les sanctionne. Et c'est beaucoup de familles, enfin des familles, des couples, familles monoparentales comme on dit, elles sont nombreuses. Et c'est ça sans doute qui pose problème aussi.
Allez, on débrief dans un instant la semaine d'Emmanuel Macron. Un chemin de croix compliqué, pas du tout. Vous l'avez entendu tout à l'heure sur RTL. Très heureux, finalement. Il est au contact des Français, dans le pays. C'est ce qu'il cherche. Il savait que ça serait pas simple.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchiel.
Ce soir avec Yves Tréhard, Serge Papin, Anne Rosenchère, Jean-Louis Burga. Quelle semaine hein, donc pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, il dénonce la boîte à folie des polémiques inutiles. Une journée, une polémique, hier c'était Pétain, et ce soir il se dit que c'était un vrai bonheur cette semaine en fait. Hein. Vous l'avez entendu, je suis très heureux de notre pays, ça fait des décennies qu'il est dans cette situation, je ne vais pas me réfugier derrière des discours convenus, moi j'ai été élu en me faisant secouer, ça continuera jusqu'au bout, je me bats pour avoir des résultats, je suis très heureux de cette itinérance. Finalement il n'aurait pas raison Serge Papin, le président.
Je trouve qu'il en fait quand même beaucoup quand on est... Je pense qu'à un moment, compte tenu du rythme, il doit quand même être un peu fatigué. Je suggère qu'il délègue aussi un peu, hein, parce que sans doute que des choses peuvent lui échapper, en tous les cas, en ce qui concerne... c'est parce qu'il y a deux lectures à ça. Sur Pétain, c'est quand même pas un sujet...
Pétain, on l'a débriefé hier, mais globalement, débriefons toute la semaine. Finalement, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas une boîte à polémique permanente ouverte?
En même temps, comme dirait l'autre, c'est vrai que ça nourrit... On est peut-être est-ce la société d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec les télés en permanence qui nourrissent une information comme ça. Mais il y a une espèce d'anxiété qui est distribué tous les jours et qui est qui se forge sur le socle des petites phrases.
Et sincèrement, Serge, je crois que c'est un voyage. Bon, je veux pas être plus critique qu'il ne faut. Je pense qu'il y a un effet grossissant, mais je me demande si ce voyage est adapté à notre époque, d'une part, à des longs voyages comme ça, et deuxièmement, il a été quand même très mal préparé. Parce que qu'est-ce que les Français vont retenir de ce voyage ? C'est un voyage qui avait un objectif, deux objectifs, qui étaient un hommage mémoriel, on va dire, et qui avait un deuxième objectif, c'est de rapprocher soi-disant le président de la République était éloigné des territoires.
Bah oui, mais de ce point de vue-là, il a purgé peut-être la colère, il a parlé directement aux gens.
Oui,
peut-être que.
Non, mais il n'a pas de chance.
Il n'allait pas là-bas pour qu'on l'embrasse. Il allait peut-être pour qu'on lui dise en face.
Mais attendez, écoutez-moi, qu'est-ce qui est venu se greffer là-dessus ? La crise des carburants. Donc, ça a complètement occulté le reste du voyage. Parce que je suis désolé, mais l'histoire de Pétain, c'est pas ça que les Français vont retenir. Hein. Eh bien, ça a complètement occulté le voyage et ça l'a rendu...
Alors, la crise des carburants, juste puisque vous êtes là, Serge Papin, puisque vous dirigiez donc Système U, ce serait quoi la solution pour vous ?
Écoutez, depuis le temps qu'on en parle de ces crises de carburant, je trouve qu'il faudrait qu'on détermine un prix qui soit acceptable. C'est pas difficile, puisqu'on sait que ça va rebaisser. Que ça va augmenter, c'est quand même un produit qui est sensible au niveau du pouvoir d'achat. Moi, c'est pas la première fois qu'on en parle. Il suffirait de cagnoter quand les cours sont un peu plus bas, l'État peut le faire. Et à ce moment, quand les cours montent, parce qu'ils vont rebaisser bientôt. Mm-hmm. Mais là, quand
c'est ce qu'avait fait Fabius avec la TIPP.
Vous voulez dire qu'il y a un prix fixe toute l'année, en fait.
On pourrait avoir un prix fixe toute l'année qui serait un prix acceptable. Il faut déterminer lequel. Je pense, si on dit pour F5, raisonnons simple, 1 euro, on n'y touche plus. Et quand les prix baissent, à l'État de dire je mets de côté.
C'est pas la TIPP flottante, ça. Ce que propose Serge Papin, c'est un prix fixe toute l'année.
Et on le peut.
Et puis finalement, c'est une moyenne.
C'est une moyenne et on fait un point tous les deux ou trois ans. Mais on le peut parce que là, évidemment, parfois les politiques s'arrogent alors qu'ils y sont pour rien.
Ça revient au même. C'est exactement la même chose.
Oui, mais on ne voit pas. Non, mais attendez. Parce que quand les prix baissent, tout le monde est content et on se dit voilà. Mais évidemment, quand ils montent, tout d'un coup, ça devient le sujet. On ne parle plus que de ça.
Votre proposition, vous qui avez dirigé Système U, c'est finalement un prix fixe toute l'année.
Toute l'année. Et on dit quel est le prix juste pour le carburant tenant compte de la transition écologique, etc., etc. Si on dit, par exemple, pour être simple, que c'est un euro, ben on n'y touche pas, on fait le point. Quand le cours va repasser à 40 dollars, à ce moment-là, on met de côté, l'État peut mettre de côté, et quand il va repasser à 70 ou 80 dollars, ce qui ne manquera pas d'arriver, eh bien, à ce moment-là, il fait appel à l'argent qu'il aura mis de côté.
C'est pas idiot.
Ça peut fonctionner.
Il va vous l'expliquer pendant la pub, parce que moi, j'ai compris. On revient.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fauchet.
Avec Yves Tréhard, Serge Papin, Anne Rosenchère, Jean-Luc Burga. Anne Rosenchère, le débrief de cette semaine chaotique, finalement, il a purgé quelque chose ?
Je pense qu'il y a deux. Il y avait deux choses différentes pendant cette semaine chaotique. Cette polémique autour de Pétain, sur laquelle on ne reviendra pas, vous l'avez débriefé hier, mais qui relève en effet de la surchauffe médiatique, réseaux sociaux, information continue, etc., et qui tout d'un coup prend une ampleur, alors qu'au départ, il y a quand même pas, il ne va pas à un hommage, et en plus, il y a même pas d'hommage. Donc c'est quand même voilà. Et je dirais la question du carburant qui en fait cristallise là sur cette petite question, enfin cette question qui est importante pour beaucoup, mais sur ce seul item là, le divorce d'Emmanuel Macron avec l'électorat populaire aujourd'hui. Je veux dire, c'est parce que il est question de pouvoir d'achat.
Bien sûr, c'est que ça s'est cristallisé à Bruno Le Maire. Mais est-ce que en allant au contact, en discutant avec les Français, il n'a pas rétabli le lien ?
Non, on peut pas rétablir le lien comme ça, ni même en changeant en modifiant un petit peu son vocabulaire. Il l'a fait. Je vous signale que par exemple a disparu tout ce qui était l'affrontement des progressistes contre les populistes, il n'en parle plus du tout. Il n'y a plus populiste dans son vocabulaire, il n'y a plus progressiste. Et il dénonce même l'Europe ultralibérale. C'est vous dire les efforts qu'il fait pour renouer avec cet électorat populaire-là. Néanmoins, en vérité, pour le faire vraiment, il n'y aura que la politique et les résultats. Et pour l'instant, vu ce qu'il dit, on n'est pas encore à un changement de politique.
Sur les grands sujets, sur tout ce qui a animé sa campagne électorale depuis le départ, je trouve qu'il est toujours
dans les rails, Emmanuel Macron. Il y a eu quelques grands débats au printemps, au début de l'été, mais ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il est capable de déclencher la boîte à questions ou la boîte à polémiques à partir de petites choses taboues en France. Qu'est-ce qu'on avait besoin de reparler de Pétain?
Ah bah, alors c'est le centenaire de la guerre.
Poser la question, alors qu'on sait que c'est bien entendu, il y a quelques sujets brûlants.
Son propos, il a rien polémique d'ailleurs.
Et après, quand vous voyez les conversations de bistrot qu'il déclenche, c'est toujours à partir de petites situations où il n'est pas à l'aise, ça va de Benalla, on a tous été d'accord au bout d'un certain temps, c'était pas une affaire. L'histoire du gamin qu'il est allé féliciter à Saint-Martin, ça déclenchait une affaire pour rien.
Mais donc non, ne dites pas pour rien, c'est
mais
pas vrai.
Mais si, ce sont des attitudes de Macron qui sont très étonnantes.
On retient bien ce qu'on veut retenir, parce que nous, il se trouve qu'on avait trois personnes sur place, toujours avec
nous,
lui.
C'est le Figaro.
Le Figaro, pardon, oui. Et il y a un effet grossissant des médias qui ne retiennent que le petit vieux qui...
Et vous allez au bistrot de temps en temps, les conversations de bistrot sont exactement celles qu'on peut avoir ici.
Le petit vieux qui l'interpelle de façon limite, d'ailleurs, limite. Oui, je ne sais pas s'ils auraient parlé comme ça à un président dans le temps. Et le reste du temps, ça se passe plutôt pas trop mal, d'ailleurs. Donc, il y a aussi un effet grossissant qui fait qu'il renvoie à la France... à une image,
d'où il vient cet effet grossissant, mais pourquoi
alors pas tout à fait la
mais d'où il vient cet effet grossissant, qu'est-ce que c'est?
Bah parce que on adore la polémique.
Hein. Comme dans tous les bistrots français, on adore discuter de choses que Emmanuel Macron nous sert comme une tarte au dessert.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, ce sera le flash de 20h et ensuite, ce sera Jacques Pradel. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire de votre émission.
Eh bien, ce soir, c'est un retour sur l'histoire de Susanna Zetterberg. Une jeune fille suédoise assassinée le 19 avril 2008 par un chauffeur de taxi clandestin qu'il avait pris en charge à l'aube à la sortie d'une discothèque parisienne. Et mon invité, Éric Trunel, était à l'époque chef du groupe de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres qui a mené l'enquête et arrêté l'assassin.
À tout de suite, après le flash.